Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h ici à Roland-Garros où on va pas parler de tennis, enfin pas tout de suite parce que Cédric Pioline arrive à 8h moins le quart. On va parler des océans, c'est la journée mondiale le 8 juin prochain et je vous signale d'ailleurs qu'Europe 1 s'associe à cette journée mondiale et que toute la journée du 8 juin nous suivrons justement la problématique des océans. Bonsoir à vous Alexia Barrier.
Bonsoir.
Vous êtes navigatrice, vous avez fait le Vendée Globe en 2020, en 2021. Bonsoir à Alexander Yachine.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de la Fondation de la Mer. Les océans, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est 71% de la surface du globe. Donc ça devrait nous intéresser. Et aujourd'hui, alors que la France, même si le président réélu a mis le cap sur l'écologie parce que c'est important, parce qu'il faut faire des efforts, parce qu'il y a 2050 en perspective, parce qu'il y a des COP qui se suivent les unes les autres, on parle beaucoup des efforts sur Terre. Et j'ai l'impression, mais vous allez peut-être me corriger, Alexander Yachine, j'ai l'impression qu'on parle un peu moins des efforts en mer.
Bon, on n'en parle pas assez en tout cas. Et c'est pour ça qu'il est bon qu'il y ait une journée mondiale de l'océan pour tout à coup s'intéresser aux océans. Vous le soulignez, c'est juste 71% de la surface de la planète. Si on prend un peu de hauteur, la particularité de notre planète, c'est qu'elle est bleue. Et elle est bleue parce qu'il y a de l'eau dessus. Et 97% de l'eau de la planète, il se trouve que ce sont les océans. Et il se trouve que...
Et pourquoi l'eau est bleue? Parce que ça, c'est un de mes enfants qui me demandait l'autre jour. C'est le corail?
Alors non, l'eau n'est pas bleue à cause du corail, mais je ne pense pas qu'on va épiloguer là-dessus. Mais il se trouve que les océans sont bleus et c'est les océans bleus qui rendent notre planète bleue. Et la vie est née dans l'océan. Et la vie n'est pas possible aujourd'hui sans les océans, qui sont la machine climatique de notre planète. Et donc, quand on prétend se mobiliser pour le climat, pour la biodiversité, faire abstraction des océans, c'est une erreur monumentale, colossale, et donc il est bon qu'on puisse s'intéresser aux océans, et on peut saluer les actions qui sont conduites au niveau international, et en particulier par la France, parce que la France a cette vocation à être leader en matière de gestion et de protection de l'océan. On peut saluer ce qui est en train d'être fait, et c'est la vocation de la Fondation de la Mer aussi d'attirer l'attention du public sur cette responsabilité qui est la nôtre.
Alors, il faut faire plein de choses, il y a juste une chose que je voudrais comprendre, et c'est pas le bateau de course d'Alexia Barrier qui va être en cause, mais lorsque vous regardez, notamment grâce au service de la Marine nationale, le trafic de la marine, j'allais dire commerciale, des tankers en temps réel, notamment dans certaines mers, notamment la mer Méditerranée, il n'y a plus une goutte d'eau. Alors comment est-ce qu'on peut allier et se vanter de ce trafic maritime qui est sans cesse jour et nuit avec la volonté de rendre les mers plus propres? C'est possible?
Alors, c'est possible, d'abord. La mer, elle est menacée aujourd'hui. Son équilibre est menacé. La principale menace, elle vient de l'action de l'homme à terre. Alors, on estime qu'il y a 80% de la pollution en mer qui provient directement de l'action de l'homme à terre. Ce sont les déchets plastiques, 19 tonnes de plastique à la minute qui sont déversées dans l'océan.
C'est 19 tonnes à la minute en 2022. C'est-à-dire que les gens n'ont toujours pas compris.
En 2022, et peut-être vous avez suivi un rapport de l'OCDE qui a été publié en fin de semaine.
Parce que ça fait juste à peu près 50 ans qu'on le dit, ça, non?
Ça fait à peu près 50 ans qu'on le dit. Simplement, la production de plastique et les déchets plastiques, ils croissent encore. Donc, on n'a pas encore pris la mesure des enjeux qui sont devant nous et on va arriver à une saturation.
Alexia Barrier, lorsque vous naviguez, ou d'ailleurs à quai, comment est-ce que vous vivez cette protection de la mer, cette mer qui fait partie de vous, en fait?
Alors, il y a 12 ans, j'ai créé l'association Formae Planète pour la préservation de l'océan. Parce qu'en arrivant d'une course que j'ai gagnée en équipage, la Maxi Transatlantic Race, qui arrivait en Angleterre, j'étais la seule femme à bord sur un bateau. On était 25 équipiers, la seule française. Et j'avais un rôle très important à bord de ce bateau. J'aurais juste dû être super fière. Et en fait, arrivée proche des côtes anglaises, j'ai eu la nausée, envie de vomir en voyant la quantité de déchets et de choses infâmes qui flottaient à la surface de l'eau. Donc, quand on est au large, on le voit moins. Plus on approche des côtes, plus c'est concentré. Et les courants ramènent tous ces déchets à certains endroits de la planète. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était important d'agir concrètement avec Formae Planète, mon association. On travaille avec des scientifiques, on prend des données sur l'eau. J'ai des capteurs sur mes bateaux de course, des données qui permettent la recherche océanographique. Donc on a ramené des millions de données. On a aidé à étalonner un satellite européen. On a aussi un programme éducatif. Plus de 100 000 enfants qui nous suivent aujourd'hui à travers le monde. Et ça, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui pour l'océan. C'est raconter des histoires aux enfants sur la mer, leur donner envie de se l'approprier, de l'aimer, même s'ils habitent très loin de l'océan, et de leur faire comprendre que chaque action a un impact direct sur l'océan.
Mais c'est ça qui est paradoxal, c'est que les enfants qui ensuite grandissent et qui rêvent de la mer et qui rêvent d'être des navigateurs, eux-mêmes ensuite se voient jeter des sacs plastiques ou des déchets dans la mer. Donc il y a quelque chose de totalement paradoxal. Est-ce que, comme on ne peut pas être derrière tout le monde, il y a quelques jours sur Europe 1, j'entendais ce reportage où il y avait les incivilités au volant et il y avait un automobiliste qui a vu une jeune femme jeter sa cigarette par-dessus la fenêtre de sa voiture. Il est sorti de sa voiture, il a pris la cigarette, il a rejeté à l'intérieur de la voiture de la jeune fille. Comme on ne peut pas faire ça, comment est-ce qu'on peut, j'allais dire, cartographier ? Est-ce qu'il y a un système GPS où on pourrait dire, tiens, il y a tel bateau qui a balancé telle chose de rien, et puis on va lui mettre une amende. Est-ce qu'il y a un côté répressif qui serait possible, qui existe déjà peut-être ? Comment ça se passe ?
Il faut savoir que le droit maritime, en tout cas la protection de l'océan, n'existe pas. Dans les eaux internationales, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi et pour nous, c'est cool, les navigateurs qui ont de la course large parce qu'on se sent très libre. Mais pour les méchants, entre guillemets, ceux qui vont aller polluer ou pêcher à des endroits où ils n'ont pas le droit de pêcher, etc., c'est une vraie problématique. Et là, il faut absolument que les États s'entendent pour vraiment mettre en place une réglementation internationale.
La pollution de la mer, c'est en chiffres, Alexander Yachine, c'est quoi ? Ça donne quoi ? Et quelle est la dangerosité de cela, justement, des plastiques, en l'occurrence ?
Alors, les plastiques, ils sont dangereux pour les écosystèmes marins parce qu'ils vont très vite se transformer en microparticules, puis en nanoparticules. Et donc, ils vont tapisser le fond de la mer, ils vont être ingérés par tous les organismes, ce qui fait qu'on voit là une perturbation des écosystèmes qui est gravissime. Et on trouve aujourd'hui des déchets plastiques dans les fosses abyssales les plus profondes, dans la fosse des Mariannes.
Ces fameux fonds marins qu'on n'a pour certains pas encore explorés.
Et la France, ça c'est une étude que vient de publier la Fondation de la Mer, la France est à la tête, elle a le patrimoine maritime le plus vaste, l'espace maritime le plus vaste en ce qui concerne les grands fonds marins. On entend par grands fonds marins les fonds marins qui sont en deçà de 1000 mètres de profondeur. C'est là où il y a une modification particulière des écosystèmes. Et pourquoi c'est important ? C'est important parce que ces grands fonds marins, ils sont essentiels pour l'avenir de l'humanité. D'abord, ils vont devenir une source de convoitise économique parce qu'on y retrouve des terres rares, des modules polymétalliques, et donc qui sont essentiels pour la transition écologique qui est devant nous. Ils sont aussi une source essentielle de biodiversité. Cette biodiversité qui est une promesse pour notre santé, pour la recherche pharmaceutique, biologique. On pourrait citer les médicaments de demain, les antibiotiques de demain. Il y a dans un litre d'eau de mer plus d'un milliard de virus. Et il se trouve que certains de ces virus sont essentiels parce qu'ils sont probablement l'avenir du monde post-antibiotique. On voit aujourd'hui que les antibiotiques...
Ce seraient les médicaments de demain.
Alors, ce seraient les médicaments de demain parce qu'ils permettent d'attaquer les bactéries, et notamment les mauvaises bactéries pour certains. Et donc, ils peuvent nous permettre de faire face au monde post-antibiotique qui arrive beaucoup plus vite qu'on le pense.
Et puis, il y a ces poissons, je ne sais pas si on peut encore parler de poissons, qui sont dans les abysses les plus profondes, qui créent eux-mêmes de la lumière.
Alors, la bioluminescence...
C'est absolument étudié par la Silicon Valley, par des grands chercheurs qui pourraient effectivement, non pas supplanter, mais aider à faire moins d'électricité.
Alors, absolument, la bioluminescence, c'est un phénomène qui est passionnant. Plus généralement, on parle de biomimétisme, c'est-à-dire les innovations inspirées du vivant. Et ça, c'est passionnant. Il y a aujourd'hui une société française qui développe de l'éclairage urbain à partir de la bioluminescence qui est présente dans les océans.
Mais comment font-ils ?
Ils cultivent les bactéries, qui sont des bactéries d'origine marine, et qui produisent de la lumière. Et donc, dans des gros tubes d'eau de mer avec des bulles...
C'est dément.
Oui, c'est dément. C'est extraordinaire. Et la ville de Rambouillet est une ville pilote pour de la bioluminescence, de l'éclairage urbain à base de bioluminescence d'origine marine.
Quand vous voyez toutes ces espèces incroyables, Alexia Barrier, vous, dans votre combat pour la mer, qu'est-ce que vous voulez faire en plus de ce que vous faites déjà ?
Alors, sur le Vendée Globe, j'ai passé 111 jours en mer. Et quand on se retrouve dans le sud de l'Indien et du Pacifique, où il fait vraiment très mauvais, dans des creux de 8 mètres. Des vents...
C'est pas encore le cas ici à Roland-Garros, mais on a une belle saucée, comme on dit.
Ouais. Des vents violents, etc. Et on se sent vraiment un invité, en fait, parmi les oiseaux qui s'amusent autour du bateau, parmi les albatros et les autres espèces d'oiseaux qui évoluent. Et on se rend compte à quel point, quand on est loin, quand l'homme est loin de la vie sauvage, à quel point les animaux peuvent évoluer de manière libre et sans crainte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est primordial de redonner la place, de la place à la nature, de la place aux espèces, à la vie sauvage, pour qu'on ne perde pas le fil de notre humanité, parce qu'on est tous reliés sur cette planète.
Est-ce qu'on arrive assez à montrer la mer ? Est-ce qu'il y a assez... Je vais enfoncer une porte ouverte. Est-ce qu'il y a assez d'aquariums ? Est-ce qu'il y a assez de lieux ? Est-ce qu'il y en a un très beau au Croisic, par exemple ? Est-ce qu'il y a assez pour montrer aux gens ce que c'est, ce que ça représente ? On ne va pas faire les documentaires, parce qu'il est évidemment plus sympa, j'utilise ce mot-là, alors que, évidemment, je m'en moque, mais il est très, très galvaudé, ce mot. Mais les gens préfèrent regarder une série télévisée sur Netflix plutôt qu'un documentaire animalier, alors qu'il y a peu de temps, il y a eu ce documentaire sur cet homme qui partait tous les jours à la rencontre d'un poulpe, qui a fait je ne sais pas combien de vues.
Ordinaire.
Donc, est-ce qu'on montre assez la mer ?
C'est de rendre les contenus plus sexy avec les Kids Format et Planète, on leur offre à partir de cette année de la réalité virtuelle, donc à nous d'être intelligents, d'utiliser les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, etc. et de rendre les choses accessibles en immersion grâce à la réalité virtuelle. L'émotion préside l'action, donc si on peut donner une émotion à quelqu'un, on sait que derrière il y aura une action, une prise de conscience, et c'est grâce aussi à ce genre de technologie qu'on va y arriver.
Oui, alors justement, je parlais des aquariums, vient évidemment l'idée des delphinariums. Là, il y a une controverse, c'est-à-dire est-ce qu'on peut montrer ce qu'il y a dans la mer ou est-ce qu'on ne doit plus le montrer parce que justement ces animaux ne sont plus en liberté ?
C'est has-been avec la nouvelle technologie, on peut montrer sans avoir de vrais animaux emprisonnés, mais que ce soit une tortue.
Vous vous dites qu'ils sont emprisonnés ?
Ils sont aujourd'hui ceux qui existent et qui sont dans les bassins, ils n'ont pas le choix que d'y être, ils y sont nés pour la plupart, mais on peut changer de modèle en fait. C'est juste de foutre la paix à ceux qui sont aujourd'hui, par exemple, dans un parc pas très loin de chez moi, dans le sud de la France, en Méditerranée, et de leur donner une belle fin de vie, une belle retraite, en laissant vraiment tranquilles les gens qui gèrent ces animaux dans le parc, tous les médecins, les soigneurs, etc. Et ensuite de changer de modèle. On peut progresser quand même, on peut inventer des nouveaux... concept.
Et bien justement, le progrès, il est là, on va en parler avec Alexandre Yachine, directeur général de la Fondation de la Mer, et Alexandra Barrier, la navigatrice, qui vous fait rêver, qui fait rêver les enfants. 19h28, on revient dans un instant dans Panorama, à tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneau.
Et dans Europe Soir Weekend, les débats de Panorama, passionnants à 3 jours de cette journée mondiale des océans. Nous sommes avec la navigatrice Alexia Barrier et Alexandre Yachine, qui est le directeur général de la Fondation de la Mer. La Fondation de la Mer qui a publié un rapport il n'y a pas très longtemps, parce que la France est une grande puissance maritime à plusieurs titres. D'abord, on a une marine nationale qui quand même a rien à envier. Alors, par rapport aux Américains, évidemment, c'est en nombre de bateaux, c'est pas génial, mais on a quand même un savoir-faire dans la marine qui est assez exceptionnel. On a Orange, pour ne pas la citer, qui câble les câbles dans les fonds marins.
C'est stratégique pour nous.
Absolument stratégique pour la France. Il y a plein de choses, et en même temps, et on va y venir après avoir détaillé votre rapport, c'est qu'il y a quand même des bateaux, hein, et je le disais, ce trafic maritime, qui, même s'il y a des biocarburants, etc., continue à la fois, c'est ça qui est paradoxal, c'était que c'est la puissance maritime commerciale de la France, c'est qu'on a des bateaux en mer, et en même temps, ils polluent. Alors, comment on fait ?
Bah, il faut amorcer cette indispensable transition écologique. Il y en a qui le font. On peut citer CMA CGM qui s'est engagé dans cette démarche. Ça prend du temps, c'est compliqué. Pour les y accompagner et accompagner tous les acteurs, la Fondation de la Mer a créé un label Ocean Approved, en bon français. Mais parce que c'est un label international, qui est une première mondiale, qui est une traduction opérationnelle, je vais être technique de seconde, pour les entreprises de l'ODD 14, l'objectif de développement durable numéro 14 de l'ONU, qui porte justement sur la préservation de l'océan. Et ce label, il permet à n'importe quelle entreprise, bien sûr les entreprises du monde maritime, mais pas exclusivement, parce que toutes ont un impact direct ou indirect avec l'océan, n'importe quelle entreprise peut agir et devenir un acteur de la protection de l'océan, justement en agissant sur ces activités et en engageant cette transition écologique.
Et donc, dans ce rapport, quoi d'autre de saillant ?
Écoutez, c'est une première mondiale. Avec le cabinet Advention, on a compilé, consolidé toutes les bases de données qui existent. Vous savez que les fonds marins, c'est le royaume de l'inconnu. On ne les a pas cartographiés ou très peu.
Ils font presque peur hein, quand on voit certaines abysses.
Hein. Oui, oui.
Qu'est-ce qu'on va découvrir ?
Mais qu'est-ce qu'on va y découvrir ? Simplement, ce qu'on y découvre en général, ce n'est pas du tout ce que notre inconscient nous dicte à l'oreille. En fait, on découvre une richesse de vie absolument extraordinaire, y compris là où il n'y a plus du tout de lumière. Mmh. Et on a découvert justement des organismes qui ont tout à nous apprendre quant à la manière dont ils survivent dans des environnements qui sont très difficiles. Le rapport que la Fondation de la Mer vient de publier avec le cabinet Advention, il a mesuré, en compilant toutes ces informations, que la France était le premier pays en termes de surface de grands fonds marins. 9,5 millions de kilomètres carrés de grands fonds marins, c'est 93% de notre zone économique exclusive, c'est-à-dire de notre espace maritime où on trace un trait de 200 000 à partir des côtes. Pourquoi c'est important ? Parce que les grands fonds marins, comme je disais, c'est un lieu qui va être pris d'assaut. C'est encore le Far West, on est, nous, la haute mer, c'est le Far West. Chaque pays est souverain sur ses propres espaces maritimes. Mais nous, on a vraiment cette possibilité d'être exemplaire et de vraiment de dicter une exemplarité en matière de gestion durable. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut d'abord explorer. Parce que pour pouvoir bien protéger, pour pouvoir éventuellement un jour exploiter, mais alors de manière durable et raisonnée, il faut d'abord explorer, il faut savoir ce qui s'y trouve.
Oui.
Et le plan France 2030, il prévoit quelques petits 300 millions d'euros pour l'exploration des grands fonds marins. C'est 1% du plan de relance. Il faut aller plus loin, il faut aller davantage. C'est pour ça que la Fondation de la Mer a formulé 6 grandes recommandations pour que la France puisse s'engager encore davantage en matière d'exploration des fonds marins.
Donc lire absolument ce rapport de la Fondation de la Mer. Écoutez aussi le podcast Périscope du Centre d'études stratégiques de la Marine qui est paru dernièrement justement sur les fonds marins et vous apprendrez des choses. Alexia Barrier, j'en reviens aux bateaux. Les bateaux, on les voit parfois, alors c'est pas seulement les tankers, c'est aussi les bateaux de course, mais les bateaux de plaisance. Est-ce qu'ils ont changé ? Est-ce qu'ils sont en train de muter ? Un peu comme, j'allais dire, une voiture à diesel et, versus une voiture électrique.
Il y a une réelle prise de conscience, notamment la course au large, mais globalement dans les industries nautiques, sur notre impact en termes de pollution, parce qu'un bateau en carbone, évidemment, une fois qu'on s'en sert plus, ça ne sert pas de pot de fleurs, hein, il faut réussir à le recycler. Et aujourd'hui, on n'est pas très bon là-dedans. Donc aujourd'hui, on a l'exemple de Roland Jourdain qui va prendre le départ de la Route du Rhum avec un bateau construit en fibre de lin. On essaie de développer des nouvelles technologies plus respectueuses de l'environnement. Personnellement, je m'engage à ne pas partir sur un bateau neuf sur ma prochaine course tant qu'on n'aura pas progressé en termes de construction navale sur la course au large. Et il y a vraiment un mouvement global des coureurs pour progresser.
On peut vous applaudir pour ça. Hein. Franchement, c'est assez inédit comme déclaration et tout à fait qui a du sens, évidemment. Moi, ce qui me fait toujours, j'allais dire, mal au cœur, alors on en parle plus, je touche du bois. Est-ce que c'est du bois ? J'en sais rien. En tout cas, je touche quelque chose pour me dire que les marées noires, ça c'est, on a vécu ça par le passé, un tanker, souvent avec du gasoil ou encore pire, des matériaux dangereux, qui s'éventrent en plein milieu de la mer. Est-ce qu'on a fait des progrès là-dessus ? Est-ce qu'on a des législations ? Est-ce qu'il n'y a plus ces grands bateaux poubelles qui circulent et qui sont à deux doigts de s'éventrer en pleine mer ?
Je pense que vraiment ce risque existe encore. Et quand on voit au large de la Corse à quelle distance des bateaux avec des marchandises dangereuses passent des côtes, alors qu'on sait qu'il peut y avoir des coups de vent terribles en Méditerranée, ça me fait trembler, tout comme vous. C'est vraiment une grosse problématique. On s'est amélioré sur la manière de récupérer peut-être les hydrocarbures, mais le mal est fait une fois que le bateau est ouvert en deux.
Quel impact des marées noires sur la mer ? Est-ce que c'est à long terme ? Est-ce qu'il faut attendre 20 ans, Alexander Yachine, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans pour que les méfaits d'un accident comme celui de l'Erika
Oui, les marées noires, elles ont un impact qui est dramatique, qui va au-delà de ce qu'on peut voir sur les côtes, évidemment, parce que ce sont des hydrocarbures qui vont durablement polluer le fond des mers. Mais d'une certaine manière, et c'est dramatique, et l'effet d'attention auprès du grand public est immédiat et dramatique. Mais d'une certaine manière, ce qui est pire, c'est la pollution silencieuse, invisible des océans, qui, elle, est quotidienne. Et on parlait du plastique, il n'y a pas que le plastique. Il y a une pollution qui est constante. Alors, on parle beaucoup du trafic maritime. Mais encore une fois, attention, hein, 80% de la pollution qu'on retrouve dans les océans, c'est une pollution qui vient des activités de l'homme à terre. Donc, bien sûr, il faut que le trafic maritime s'améliore.
Donc, 20% seulement,
20% seulement.
Le diesel des bateaux.
20% seulement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun d'entre nous, tous, on a une capacité à agir pour protéger l'océan. Alors, les Français particulièrement, parce qu'on a cet espace maritime qui est absolument exceptionnel, deuxième espace maritime au monde. On a, dans nos eaux territoriales, 10% des récifs coralliens, excusez du peu, mais c'est fondamental quand on sait que 25% de la biodiversité marine dépend directement de ces écosystèmes. On a 20% des atolls qui abritent des écosystèmes aussi qui sont uniques au monde. Et donc, on a cette impérieuse nécessité à être exemplaire, mais on a cette capacité à agir chacun d'entre nous. On a tous vu ces bouches d'égout dans les villes où il y a marqué « La mer commence ici ». Bah oui, moi, si je trie bien mes déchets, si je suis attentif à la manière dont je consomme, si je suis engagé en m'informant, en participant, pourquoi pas, à des collectes de déchets organisées par la Fondation de la mer, en rejoignant, pourquoi pas, le programme SOS Corail de la Fondation de la mer, et aller, pourquoi pas, en allant dans les classes pour s'engager et mobiliser les jeunes qui sont...
C'est ce que j'allais vous demander.
De s'engager. Ouais. Et oui, nous, on est partenaires Fondation de la mer de l'éducation nationale.
Est-ce que on va, en ce 8 juin, est-ce que vous allez les uns les autres aller dans les classes pour justement faire de la pédagogie
partout?
Ouais, nous on organise une conférence à Monaco avec des différents intervenants, des scientifiques, des coureurs au large, des femmes navigatrices et des enfants. Ce sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux, sur Format et Planète et les réseaux sociaux de la mairie de Monaco. C'est très important de donner la parole aux scientifiques, aux enfants. Les enfants, pourquoi ? Parce qu'ils ont des idées absolument géniales, très souvent. En tout cas, ils sont très pertinents. Et les scientifiques, parce que c'est la réalité de la vie de l'océan qui est retranscrite dans leur parole.
Ce qui est génial à Monaco, c'est que vous avez un souverain qui est très, très impliqué dans cette affaire.
À Monaco, évidemment, avec la fondation du prince Albert II de Monaco et plein de conférences et d'événements qui ont lieu tout au long de l'année, chaque année, pour donner la parole à l'océan.
Mais Monaco, c'est une chose. Après, il faut prêcher la bonne parole et partout, dans les quartiers, dans les territoires, dans les écoles où la mer, il y a quand même aussi de jeunes enfants qui, en France, pour des problèmes purement financiers, n'ont jamais vu la mer. Donc,
absolument.
Il faut leur montrer et leur dire ce que c'est et pourquoi c'est important.
Absolument. Il y a un programme de la Fondation de la mer qui accompagne les jeunes à ça. Et tous les enfants, où qu'ils se trouvent, ont vocation à être sensibilisés justement à leur impact sur l'océan, à leur manière de s'engager et à l'impérieuse nécessité d'agir parce que ces écosystèmes, ils sont essentiels pour notre quotidien, où qu'on se trouve, sur le littoral ou alors au centre des terres.
Un mot pour terminer, Alexander Yachine, de la Marine nationale,
oui,
qui fait un gros travail aussi pour la protection des océans.
Fabuleux, essentiel, elle a besoin d'être soutenue. On a une marine nationale. D'ailleurs, on n'a pas une armée de la mer. Hein. Donc, on avait vraiment une.
Oui, c'est ça.
Une marine.
Il n'y a pas forcément un aspect belliqueux. Hein. C'est pas parce qu'il y a une frame qui passe.
Absolument. Voilà. Absolument. Absolument.
Ou un BPC.
Absolument. Et qui assure la sûreté et l'action de l'État en mer. Elle a besoin d'être soutenue. Elle a besoin d'être encouragée. Elle a engagé un travail essentiel justement pour amorcer la transition écologique dont on parle, est vraiment exemplaire. Elle n'est pas toujours exemplaire pour pouvoir communiquer sur ce qu'elle fait de très bien. Donc, merci.
C'est de mieux en mieux quand même.
De mieux en mieux, cela dit, merci de le souligner parce que ça mérite de l'être.
Oui, ça mérite de l'être. Merci en tout cas à vous tous, à vous trois, à vous deux. Moi, je n'arrive plus à calculer. Vous êtes deux, mais il y a tellement de choses, tellement de matière à dire à propos de cette journée des océans que j'ai l'impression que vous étiez plusieurs. Merci beaucoup Alexia Barrier, bravo pour votre implication. Et je retiens cette information, vous ne prendrez plus la mer sur un bateau neuf tant qu'il n'aura pas été, exemplaire au niveau écologique. Et merci vous, Alexander Yachine, directeur général de la Fondation de la mer. 19h42, dans un instant, c'est Service Pioline pour le résumé de cette finale incroyable ici à Roland-Garros. À tout de suite.